오늘 우리 영혼에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole que Dieu veut nous donner à nos âmes aujourd'hui se trouve dans Osée chapitre 2 verset 19 à 23. Ancien Testament Osée 2, 19 à 23. Hein? Lisons à tour de rôle. Pour le dernier verset, lisons tous ensemble. J'ôterai de sa... Je te financerai à moi pour toujours. Je te financerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te financerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, je serai oracle de l'Éternel. Je serai les cieux et je serai la terre. La terre et je serai le blé, le vin nouveau et l'huile. Et je serai Israël. J'ai pendré sur pour moi de la semence dans le pays et j'aurai compassion de la Romana et j'aurai Romani, tu es mon peuple et il dira mon Dieu. Prions pour l'évêque de l'Église, pour le Saint-Esprit lui donne une grande inspiration et prions pour nos âmes pour que nous puissions écouter donc son serviteur de Dieu par le Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Dieu le Père, tu nous as donné ce jour saint et tu nous l'as commandé et nous y avons obéi pour te rendre ce culte, que nous puissions ouvrir notre cœur pour te voir et pour que nous puissions écouter la parole de vie, que nous la recevions pour pouvoir vivre éternellement selon ta volonté. Bénis-nous tous. Je prie au nom de Jésus. Dieu s'est marié avec moi. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Dieu unique qui s'est marié avec moi. La foi consiste à en mariage entre Dieu et moi. Le mariage n'est pas basé seulement sur le désir charnel, mais il est l'ennemi éternel avec qui nous pouvons nous marier. Seul l'ami et l'amour est sans condition. Il a tout sacrifié. Il est devenu ami de nos âmes. Il s'est marié avec moi par la justice, par l'équité, par la compassion et par la grâce. Les cieux et la terre ont répondu à cela. Et les âmes qui étaient ennemies de Dieu sont devenues ses épouses. Et il est devenu notre Dieu qu'on n'a pas connu, qu'on a seulement craint. Mon âme, marie-toi sincèrement avec Dieu. Il est l'amour. Il est devenu notre ami sincère. Mon âme, trouve la vérité. La foi, c'est aimer Dieu, c'est devenir son ami. La foi qui ne permet pas de devenir son ami, c'est une hypocrisie et c'est un mensonge. Devenons son époux qui est son ami. Il n'y a qu'un seul Dieu. On a entendu parler de cela de nombreuses reprises, mais même à centaines de fois. Lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on parle de Dieu, de la Trinité, mais c'est un terme théologique qui a été inventé par les théologiens. Mais en ce qui concerne la Trinité, qui est appelé en coréen Samui. Oui signifie la position, mais certains disent que oui signifie le trône. Donc il y a trois trônes, c'est-à-dire celui du Père, celui du Fils et celui du Saint-Esprit. Il y a donc trois trônes, c'est pas vrai, parce que s'il y a trois trônes, il y a trois dieux. Donc, il ne faut pas que nous croyions en cette théorie. Alors, il faut que nous croyions au Dieu unique. En coréen, le mot « oui » signifie le trône. C'est ce que certains le disent. Mais il faut que nous ayons le contrôle de soi. Il faut qu'on se contrôle lorsqu'on apprend, et dans la foi, il a la vertu, mais dans la foi, il doit y avoir la maîtrise de soi. Mais si on continue d'interpréter, on ne peut que tomber dans l'erreur. Et c'est Jésus qui est l'interprète de la Bible, c'est lui qui est la réponse à la loi. Alors Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour, je suis venu pour la perfectionner, je suis venu pour donner la réponse à la loi. Donc il ne faut pas mépriser, ignorer la parole du Seigneur Jésus. Donc qu'est-ce que, oui, en coréen, lorsqu'on parle de la Trinité, et ici le coréen, oui, signifie la position, la personnalité. Donc on parle de trois personnalités, donc il y a trois personnalités qui est celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Ces trois personnalités sont indépendantes. Donc il y a donc la volonté du Père et celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Et il y a aussi trois volontés indépendantes. S'il y a la volonté du Père, le Fils respecte cette volonté de son Père, même s'il a une volonté indépendante. En acceptant la volonté du Père, le Fils devient un avec son Père. De la même manière, le Saint-Esprit qui a une volonté indépendante de celle du Père, de celle du Fils, accepte, partage la volonté du Père, du Fils. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Donc, ces trois personnalités existent de manière indépendante, mais il faut qu'il y a qu'une seule volonté. Donc, il y a l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de discorde entre ces trois. Il n'y a que la convergence. Il n'y a que l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, il y a donc la volonté fixée par Dieu le Père. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Donc, si on refuse, rejette sa volonté, sa parole, on rejette en fait sa volonté. Et si on rejette sa volonté, même si on écoute sa parole, on ne la garde pas. Par exemple, la dîme. Le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte a donné la dîme à Dieu. Ce sont les Israélites qui ont confirmé cela. Donc, Abraham a donné la dîme et ses descendants aussi. Ses petits-enfants, ses enfants ont donné aussi la dîme à Dieu le Père. Et alors, c'est Dieu qui l'a confirmé. Et il a dit, cette dîme appartient à moi. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu le Père a confirmé cette pratique. Mais le peuple d'Israël a commencé à ne pas écouter la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont rejeté sa volonté, parce qu'ils ont volé ce qui appartenait à Dieu. C'est pourquoi ils ont été abandonnés et ils ont été maudits par Dieu. Dieu, en fait, ne parle pas beaucoup de la malédiction, mais concernant la dîme, il a utilisé le mot malédiction en disant « son peuple a été maudit ». Donc, ton doigt a été maudit parce que tu m'as volé. Voilà, donc, personne ne pouvant comprendre ce qu'est sa volonté. Le Fils aussi, pour accomplir la volonté du Père, il a dédié même sa vie, il a versé son sang pour pouvoir accomplir la volonté de son Père. Il n'a jamais refusé la volonté de son Père, il l'a respecté même en donnant sa vie. C'est ça la foi que nous avons. Alors Jésus a dit « Suivez-moi et apprenez-moi ». C'est ce que Jésus a dit. Suivez-moi, apprenez-moi. Je suis un cœur doux et humble, donc venez à moi pour m'apprendre. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Alors, qu'est-ce que nous devons apprendre en allant vers Jésus-Christ? Le Fils qui est sorti du sein de son Père n'a pas méprisé la volonté de ce dernier. Il l'a respecté jusqu'à donner sa vie. Il a donné l'autorité à la parole de son Père. C'est ce que nous devons apprendre. Il faut que nous donnions toute notre vie pour le servir, pour l'aimer. Voilà. Donc, lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils ont été donc conduits par Dieu. Et en fin de compte, ils ont pu sortir de l'Égypte. À ce moment-là, Dieu leur a dit, « Ils sont mon peuple, ils sortiront de l'Égypte pour me servir. » Donc, ceux qui n'ont pas servi Dieu le Père dans le désert, ils ont été maudits. Ceux qui ont méprisé les fêtes ont péri et ont été maudits. Parce que l'objectif de l'Exode fixé par Dieu, c'était que le peuple d'Israël le serve dans le désert en observant les fêtes. Et il a même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi lors de la création, par exemple, et en toutes choses. Alors même le Saint-Esprit n'a pas méprisé la volonté de Dieu le Père. Il l'a respecté et pour accomplir cette volonté, le Saint-Esprit se concentre à 100% sur l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il dit dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, « Dieu le Père, j'ai été glorifié pour ton nom, je leur ai fait connaître ton nom, donc j'ai été glorifié grâce à ton nom. » Quelle sorte de gloire il a reçue? Il a continué de dire, « Par le nom donné par toi, j'ai... Et moi et toi sont devenus un. Donne-leur aussi ton nom pour que eux et nous deviennent un. Non pas pour les amener dans les cieux immédiatement, mais pour pouvoir accomplir les Écritures. Qu'il soit un avec nous. Donc, qu'est-ce que c'est ici un? Il faut qu'on donc pense à la volonté de Dieu le Père lorsqu'on parle de l'unité. Parce que sa volonté constitue sa justice. Donc, son Fils aussi et le Saint-Esprit aussi travaillent pour l'accomplissement de cette volonté. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit deviennent un. Donc, il lui donne le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu, pour devenir un avec Dieu le Père. Pour cela, il faut que nous partagions la volonté du Père. Donc, si nous sommes des chrétiens, il faut que nous fassions sa volonté pour devenir un avec lui. On ne peut pas refuser la volonté de Dieu le Père. Il ne faut jamais refuser sa volonté. Parce qu'on ne peut pas le faire et on ne doit pas le faire non plus. Et parce que notre identité, c'est quoi? Nous sommes des saints. Lorsque j'ai lancé le mot béret, je voulais retourner à la Bible. Parce que dans le passé, il y a eu les Béréens qui avaient en fait l'idée des Puritains. Et l'idée des Puritains était quelque chose de bien clair. Ils ont mené la vie de la foi d'une manière claire. Exact. Nous serons tous jugés par Jésus-Christ qui va faire la distinction un jour entre les brebis et les boucs. Donc nous serons tous devant ce juge, devant ce jugement. Donc il faut que nous soyons bien clairs lorsque nous menons la vie de la foi en tant que saints. Donc Jésus a dit dans le texte Osée, je me suis marié avec vous. C'est ainsi que Dieu a parlé du mariage entre lui et les hommes. Et c'est ainsi que Dieu a exprimé sa relation avec les hommes d'une manière très, très proche, très intime. Qu'est-ce que c'est le mariage? En Judée, quelle est la pratique du mariage? C'est le mari, c'est l'époux qui va à la maison de son épouse. Et c'est l'époux qui passe la première nuit à la maison de son époux et jusqu'à ce qu'il obtienne le premier enfant, il vit à la maison de son épouse. C'est la pratique de la Corée concernant le mariage. C'est ainsi que le mari aide la famille de son épouse. Zagop a aidé pendant 20 ans son beau-père. Et c'est ce qui s'est passé aussi en Corée. Donc, le mari a vécu pendant 2 ou 3 ans à la maison de son épouse pour aider la famille de son épouse, les parents de son épouse, en cultivant la terre, par exemple. Et il respectait bien les parents de son épouse et il a fait son travail. Et ensuite, il a obtenu un peu de terrain et, avant de quitter la maison de son épouse. Donc ensuite, il entre dans la famille, dans sa propre famille avec son épouse et ses enfants. Joseph, qui s'est fiancé avec Marie, a séjourné pendant une certaine période chez sa fiancée. Et en séjournant à la maison de sa fiancée, donc le père de sa femme était Heli. Donc pour Joseph, Heli était son père, son ancêtre qu'il devait servir jusqu'à la mort en partageant la même volonté avec lui. Et dans Luc chapitre 3, au-dessus de Joseph, il y a eu Heli qui était le père de Marie qui était sa fiancée. Donc, ce n'est pas au niveau biologique, mais c'était la tradition, c'était la loi. Et alors, au-dessus d'Eli, il y a quoi? Il y a eu, en fait, le frère aîné de Salomon, qui était appelé Nathan. C'est ainsi que le mariage. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le mari va à la famille de son épouse. Et ensuite, l'épouse va à la maison de son époux. Donc, l'ordre établi concernant le mariage, c'est d'abord que le mari va à la maison de son épouse et que l'épouse va à la famille de son mari. Mais aujourd'hui, on passe selon une cellule à la maison de la fiancée, de l'épouse. et même en fait, on passe un certain moment, une certaine heure à la maison de l'épouse après le mariage. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses ont été changées concernant le mariage. Jésus s'est marié avec nous. D'ailleurs, le Père est entré en nous par le Saint-Esprit pour nous donner sa vie, sa joie. C'est ça le mariage. Le mari s'est déjà marié avec nous parce qu'il est déjà entré en nous. Il est déjà entré dans notre famille, dans notre maison. Il est déjà entré dans notre corps, dans notre cœur. Il est déjà entré en nous. Donc, à partir de ce moment-là, il va nous aider pour un certain moment. Et ensuite, si le temps vient, il va nous amener dans la maison du Père. Donc, les saints sont des épouses de Jésus. Donc, Jésus reviendra. Il était dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse s'adresse aux femmes de Jésus. Donc, ils seront tous appelés. Donc, ils sont des femmes de Jésus. Et ils seront appelés. Et ils entreront dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ est entré dans les cieux pour préparer leur demeure. Donc, il reviendra pour amener ses femmes dans la maison, dans le royaume des cieux. Alors, Joseph voulait quitter Marie parce que Marie était enceinte, mais le Saint-Esprit lui a dit que sa femme est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Donc, Joseph a obtenu l'enfant qui a été conçu dans le ventre de Marie, qui était sa fiancée. Ensuite, ils sont retournés à leur pays natal. Donc, qu'est-ce que le mariage? C'est l'unité entre un homme et une femme. Ils deviennent et ils forment un seul corps. Mais ce n'est pas seulement au niveau physique. Donc, il y a donc unité dans la signification du mariage. Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps? Il y a alors deux personnalités indépendantes, donc qui est celle du mari et celle de la femme. Si ces deux personnalités ne se coïncident pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Si on obtient un enfant et son père veut faire de lui un médecin, mais sa mère veut faire de lui un autre, à ce moment-là, il peut y avoir des disputes entre le mari et la femme. Et son père lui dit à son enfant, et va jouer à l'extérieur, et ne fait pas trop, ne n'étudie pas trop, mais sa mère et veut que son enfant étudie beaucoup plus. Donc, si on ne fait pas de concessions et on ne peut que se disputer à cause de l'enfant, c'est la raison pour laquelle alors là, le mari dit, alors ton enfant, l'enfant n'est pas poli. Et la mère dit concernant son enfant, et rien ne se passe, il n'était pas bien. C'est ainsi qu'il n'y a que des disputes entre le mari et la femme concernant son enfant. Donc, il peut y avoir des concessions entre les deux. Il faut qu'il y ait donc la convergence entre le mari et la femme concernant son enfant. Donc, il faut que le mari et la femme partagent la même volonté pour ne pas se disputer. Le couple. Il est dit dans les proverbes. Il peut y avoir des disputes entre le mari et la femme. Si cette dispute continue, ils ne sont plus le couple. Il vaut mieux qu'ils se séparent. Et il vaut mieux aller dans le désert pour vivre seul. C'est ce qui dit la Bible. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une unité parfaite, absolue entre la femme, le mari et la femme. Donc, s'il n'y a pas d'unité entre le mari et la femme, c'est une grande souffrance qu'on ne peut connaître après le mariage. Donc, au début de la vie conjugale, on est heureux, mais avec le temps, on ne sourit plus, on ne rit plus. Et puis, le mari demande à sa femme de lui donner le repas et il est très froid vis-à-vis de sa femme. Donc, il y a donc deux volontés indépendantes qui est celle du mari et celle de la femme. Mais il faut que ces deux volontés se coïncident. Il peut y avoir donc il ne faut pas qu'il y ait une confusion, une certaine confusion entre la volonté de Dieu le Père et la nôtre. Lorsqu'on a écouté la volonté de Dieu le Père, on a compris sa volonté, on a compris son ordre. Mais on n'y obéit pas, et si on ne l'accepte pas parfaitement et absolument, et si on se discorde, si on se dispute entre Dieu le Père, on n'aura pas la vie. Et voilà, donc c'est la mort. Écoutez bien donc cette partie-là. Il y a la pensée et le cœur. Si la pensée et le cœur, est-ce que la pensée et le cœur sont les mêmes? Non. La réponse est non. Même les animaux possèdent la pensée. Les animaux peuvent penser, par exemple, une mouche. Cette mouche veut se mettre sur le riz. Et cette mouche veut présenter ses excuses à nous qui devons manger ce riz. Mais cette mouche part. Et immédiatement, si la personne concernée vient pour manger ce riz. Et c'est ainsi que les animaux possèdent une certaine personnalité, une pensée. Ils peuvent penser, mais les animaux n'ont pas le cœur, tandis que les hommes possèdent le cœur. Donc, la pensée vient de la tête. Ce n'est pas le ventre qui pense, c'est le cœur, c'est la tête qui pense, c'est la tête qui médite, qui réfléchit. Donc, les philosophes sont très intellectuels. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire en Dieu parce qu'ils réfléchissent. Donc, la philosophie ne peut pas nous sauver. La religion appartient à la philosophie. Donc, si nous sommes philosophiques, nous voulons toujours comprendre et nous voulons toujours comprendre, réfléchir pendant des centaines d'années même. Mais où se trouve le cœur? Le cœur se trouve ici, en fait. Les animaux n'ont pas le cœur, même s'ils peuvent penser. Mais dans la personnalité des hommes, il y a la pensée. Lorsqu'on parle de l'âme des hommes, et on parle aussi, cela signifie que les hommes peuvent penser. Mais l'esprit se trouve dans la vie qui vient du cœur. dont l'esprit se trouve dans le cœur. Voilà, donc la pensée et le cœur sont différents. Par le passé, il y a eu les Néphilim qui vivaient sur la terre. Ils n'avaient pas le cœur, mais ils pouvaient penser. C'est pourquoi ils pouvaient se développer, ils pouvaient progresser en réfléchissant. Malgré cela, ils n'avaient pas le cœur. Ils n'avaient qu'une personnalité. Donc, une seule personne parmi eux a été choisi par Dieu et il lui a insufflé un souffle de vie. À partir de ce moment-là, cette personne sélectionnée pouvait avoir le cœur. Adam signifie donc l'esprit vivant qui possédait le cœur, qui possédait le cœur. Donc, lorsqu'il a vu Ève, qui était sa femme, il lui a dit, c'est mon los medios et la chair de ma chair. C'est en ce qu'il a été ému par la beauté de sa femme. Le regret se trouve dans le cœur. C'est pourquoi il est difficile d'effacer le regret que nous avons. Par exemple, si on perd notre enfant, et on ne peut que le regretter, la mort de son enfant, de notre enfant. C'est difficile de l'oublier parce que le regret se trouve dans notre cœur. Dieu parle maintenant du mariage qui se fait entre lui et nous. C'est ainsi que Dieu le Père entre dans notre cœur, non pas dans notre tête. C'est là pour lequel on parle en coréen, Shim Nyang. Shim signifie cœur, Yang signifie esprit. Donc, Dieu entre dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, si on n'a pas d'esprit, Dieu ne peut pas demeurer en nous. Dans le cœur, il y a l'esprit. Donc, dans la parole de Dieu, il y a sa volonté. Et sa volonté, c'est le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu entre dans notre cœur. C'est ce que doit se faire, en fait. Donc, même si on regarde la Bible, même si on lit la Bible des dizaines de fois, et on ne peut pas être changé, il y a beaucoup qui ne sont pas changés. Moi, lorsque j'ai fait la lecture de la Bible à 75 fois pendant 5 ans après ma conversion, et dans ma tête, il y a eu beaucoup de paroles de Dieu, mais je n'ai pas été ému par la parole de Dieu qui s'est accumulée dans ma tête. Mais à un moment donné, la parole de Dieu a commencé à entrer dans mon cœur. À partir de ce moment-là, mon cœur a été ouvert devant la parole de Dieu. Et donc, c'est ainsi que la parole de Dieu est entrée dans mon cœur. C'est ça, recevoir la grâce. Et alors, Dieu le Père s'est marié avec nous. Et c'est ce qu'il était dans Osée. La femme d'Osée était une femme très corrompue. Très, très corrompue, en fait. Parce qu'elle a quitté la maison d'Osée, qui était son mari. Ensuite, elle s'est bien corrompue. Et elle a vécu dans la débauche. Donc, c'est lui qui était le symbole de la corruption. Mais Osée a couché avec sa femme. Et en fait, Osée n'a pas demandé son passé corrompu à sa femme. Il a aimé sans aucune condition. Alors, Dieu le Père a vu ce qu'a fait Osée envers sa femme corrompue. Alors, Dieu le Père a dit, je me marie avec vous, avec toi. Et c'est ainsi qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a tout sacrifié. C'est ainsi qu'il lui a donné sa grâce. Il n'y a pas de condition préalable dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, le paraclet, le paraclet signifie beaucoup de choses. Par exemple, le gardien, par exemple. Mais l'avocat, mais le paraclet signifie d'abord, en premier lieu, celui qui fait un service. le mari sert la famille de son épouse pendant 3 ans ou pendant 5 ans. Zagop l'a fait même pendant 20 ans. C'est ainsi que le mari sert la famille de son épouse pendant une certaine période. Le Saint-Esprit est entré dans nos âmes pour nous servir et il le console. Et alors, par la consolation du Saint-Esprit, l'Église croit. Donc, on parle maintenant du service bénévole. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dans cette grâce, il n'y a pas de condition préalable. Si on l'accepte, il le sert sans aucune condition, sans aucune limite. Donc, en fait, il ne demande pas notre passé. Il n'y a que sa grâce. Nous avons été sauvés. Dans Éphésiens 2, on a été sauvés par sa grâce. Donc, la grâce, qu'est-ce que c'est? C'est l'unilatéral. Même si nous sommes mauvais comme la femme d'Osée, toutes nos fautes ont été couvertes par lui. Et ensuite, il s'est marié avec nous à travers sa justice, à travers le droit. On n'a pas de justice, mais la justice de Dieu nous a couvert nos fautes. Et ensuite, le mariage entre lui et nous s'est fait. Donc, je suis injuste, mais moi, je vais couvrir ton injustice pour me marier avec toi. Je suis injuste, mais en fait, moi, ton injustice a été rectifiée, a disparu parce que avec mon droit, avec ma justice, je me suis mariée avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est le droit dont parle Dieu? Dans le droit, donc, il y a en fait une confirmation légitime et légale. Et il y a donc l'ajout du sceau dans des documents légaux. Et donc, il n'y a aucun changement dans cette l'estimation. Hein? Donc, voilà, Dieu ne change jamais, il ne ment pas. Et parce qu'il nous a justifiés. Il nous a justifiés, il nous a scellés par son droit pour l'éternité. Quoi qu'on. Alors, il peut y avoir beaucoup de critiques en ce qui nous concerne, mais Dieu ne les écoute pas. Mais il se marie avec nous à travers son droit, à travers sa miséricorde. Dans le droit, il n'y a que la légalité, il y a la légitimité, il y a seulement le sceau légitime qui est donc mis dans les documents légaux légitimes. Donc, il n'y a pas changement inattendu dans cette légitimité. Concernant la compassion de Dieu, qu'est-ce que c'est? Concernant la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a en fait un certain amour entre les hommes. On peut aimer quelqu'un, mais cet amour change. Par exemple, il y a beaucoup de séparation. Il y a l'amour entre les hommes, mais il n'y a pas de grâce dans cet amour humain. Mais la grâce, il y a l'amour absolu et inconditionnel. Et on couvre toutes les fautes de notre mari, par exemple, notre femme. Par exemple, le mari rentre en retard et sa femme est... doute de son mari. Et pourquoi tu es rentré en retard? Et il a cette femme téléphone et pour vérifier si son mari était juste ou pas.
그러면 어디 누가 잠깐 머리와 아니요.
Donc voilà, dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de condition préalable. Ce n'est pas par notre tête qu'on aime Dieu, mais c'est nos esprits qui se marient avec le Père. Alors, comme Dieu le Père, il faut que notre esprit aime Dieu le Père de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa volonté. Dieu aime nous, enfin nos esprits. Dieu nous aime. Et il s'est même marié avec nous à travers sa grâce. Et ce mariage est éternel donc. Parce que ce mariage est basé sur la grâce de Dieu. C'est ainsi que Dieu le Père s'est marié avec nous, mais est-ce que vous êtes mariés? Vraiment? Et parce qu'il nous a donné le nom Jésus. Dieu le Père nous a donné le nom Jésus. Jésus a dit, tu m'as donné ton nom pour que toi et moi deviennent un. Donne-leur aussi ton nom pour que eux deviennent un avec nous. Donc, si le nom de Jésus est entré en nous, nous pouvons avoir sa volonté en nous. Donc, via le nom Jésus, est-ce que votre cœur, votre âme est devenu un avec l'Esprit de Dieu le Père? Il est dans Romains chapitre 8, verset 6. La pensée de la chair est la paix et la vie, mais la pensée charnelle, c'est la mort. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est la pensée charnelle? Qu'est-ce que c'est la pensée de l'esprit? Si une pensée sort de notre tête, et à ce moment-là, c'est charnel. Donc, il ne faut pas essayer de servir Dieu avec nos propres pensées qui sortent de notre tête. Parce que notre pensée change de manière constante, tandis que notre cœur ne change pas bien. Par exemple, après le mariage, on pense beaucoup, on réfléchit trop. Et c'est ainsi que et on est dans une grande confusion en pensant trop, en réfléchissant d'une manière excessive. Lorsque j'étais jeune, j'étais petit, alors j'ai travaillé dans une petite compagnie et alors ceux qui travaillaient dans cette compagnie vivaient trop. Donc, une personne ne pouvait pas manger normalement. Il tremblait lorsqu'il mangeait parce qu'il a trop bu d'alcool. Et je ne peux pas oublier cette personne-là qui tremblait tout le temps lorsqu'elle mangeait. Mais cette personne me disait tout le temps, je vais m'arrêter de boire de l'alcool. Mais il ne pouvait pas le faire, même s'il a fait cette décision. Tous les jours, il ne pouvait pas la pratiquer parce que cette pensée-là n'a pas de racine. Parce qu'on pense d'une manière libérale, d'une manière libre, d'une manière illimitée. Et alors, à travers la pensée, on peut entrer même dans la banque de Corée parce qu'on est pauvre. Et on peut aller à l'étranger, on peut faire un tour de du monde si par la pensée, mais le cœur ne change pas facilement. Donc lorsqu'on se marie, ce n'est pas la pensée qui fonctionne, c'est le cœur qui fonctionne lorsqu'on se marie. Le cœur ne change pas facilement. Donc si on s'est marié, et il faut pour que nous ayons un seul cœur, inchangeable. Par exemple, sur un arbre, il y a des feuilles. Si une feuille tombe de cet arbre, c'est sa fin définitive. C'est ça le cœur qui ne change pas. Et donc, Dieu nous a donné tout son cœur. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Même si on a beaucoup de pensées venues de notre tête, ces pensées ne peuvent pas plaire à Dieu, le Père, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Donc si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'est pas homme du Christ. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, même si on est très intelligent. Alors même si on a de bonnes pensées philosophiques, on ne peut pas rencontrer Dieu via cette pensée. Ma parole, c'est l'esprit et la vie. Donc sa parole entre dans notre cœur. Où se trouve votre esprit? C'est ce qui est dit dans Jean 6, 63. Donc, est-ce que vous menez la vie de la foi avec votre esprit? On parle de l'homme de Dieu dans la Bible. Élie était homme de Dieu. Élisée aussi, et c'était homme de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Ils sont devenus hommes de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a l'expression mon mari et ma femme. Donc, c'est de la manière il y a l'expression l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un homme spirituel. On s'est marié avec Dieu le Père. Dieu le Père s'est marié avec nous, il est entré en nous, son nom est entré en nous, sa parole est entrée en nous, son nom a été inscrit dans notre cœur. Il est entré en nous via le Saint-Esprit et qui nous sert sans cesse. Si le temps vient, il va nous emmener dans le royaume des cieux. Alors Jésus nous a dit, je vais préparer vos demeures dans les cieux, ensuite je vais vous amener dans le royaume des cieux. Alors on attend ce jour-là où Jésus reviendra. Voilà donc, est-ce qu'on s'est marié avec Dieu le Père? Pierre a dit, il y a la parole de la vie éternelle, à qui irions-nous? C'est ce qu'il a dit à Jésus, qui était son maître. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a ici de bonnes paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Alors, comment je peux aller ailleurs? Ce n'est pas la signification de la réponse de Pierre. C'est Jésus lui-même qui est la parole de la vie éternelle. Donc, il y a ici Jésus, il y a ici Dieu qui est la parole. Alors, à qui irions-nous? Comment je pourrais trouver Dieu ailleurs? Parce qu'ici, il y a le Dieu unique, donc je ne peux pas aller ailleurs. Donc, voilà, on s'est marié avec Dieu le Père. C'est bien clair? Prenez le point. Mon âme s'est mariée avec Dieu. Mon âme s'est mariée avec Dieu. Mon âme s'est mariée avec Dieu. Quelle est la promesse qui a été faite par Dieu? Alors moi, donc toutes tes fautes seront effacées. Toutes tes dettes seront aussi effacées. Toutes les dettes de ta famille seront aussi acquitté par moi. Et la grâce, la misère, la compassion, l'amour, la bénédiction, la puissance entreront en toi. Donc tout ce qui t'appartient sera le mien. Et tout ce qui m'appartient sera le vôtre. Moi, donc, je me charge de toute ton injustice. Ton injustice sera le mien. Et tout ce que j'ai deviendra le vôtre. Donc, si vous demandez ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. En 1962, j'ai été complètement changé. Cela signifie que si tu demeures dans mes paroles et si mes paroles demeurent en toi, et à cause de cette parole, j'ai été complètement changé et je me tiens devant vous. Donc, mes bien-aimés, toute votre faute, toute votre pauvreté, alors seront en charge de Dieu le Père. Donc, ce n'est pas la peine de vous en inquiéter. Alors, tout ce que j'ai, donc ce qui est bon, mon nom, ma gloire et ma grâce seront à vous. Levez-vous. Est-ce que vous vous êtes marié avec Dieu? Est-ce que vous êtes marié avec vous? Si vous n'êtes pas marié avec vous, vous ne pouvez que être dans l'erreur. Même si vous chantez pour exprimer votre amour vis-à-vis de Dieu le Père. Mais il faut que votre cœur aime Dieu le Père. Il s'est marié avec nous et quelle doit être votre réaction face à ce mariage? Prions donc par le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit et soyons remplis de la joie de Jésus. Soyons remplis de la joie de notre époux. Prions.